France Musique. Musicopolis. Jamais sans musique. Le siège est la Commune de Paris. Chapitre 1. La guerre est déclarée. Notre histoire, celle qui va nous tenir en haleine toute cette semaine, commence le 19 juillet 1870. Ce jour-là, poussé par l'opinion publique, Émile Ollivier, chef du gouvernement, déclare la guerre au royaume de Prusse. Alors qu'Adolphe Thiers proteste et crie « Vous n'êtes pas prêts !» Le ministre de la guerre, Edmond Leboeuf, déclare « Nous sommes prêts et archi-prêts. La guerre dût-elle durer 2 ans, il ne manquerait pas un bouton de guêtre à nos soldats. » La foule enthousiaste s'enflamme. En juillet 1870, nous sommes sous le Second Empire. C'est une société assez prospère qui aime par-dessus tout se divertir. Je parle ici bien sûr des classes aisées. Pour les classes populaires ou laborieuses, c'est une autre affaire. À Paris, tout est fait pour éviter l'ennui. Les théâtres et les cafés-concerts sont nombreux et des tas d'autres genres de divertissements pullulent également. Les dioramas, les panoramas, les expositions et ne serait-ce que les flâneries sur les larges boulevards récemment percés par le baron Haussmann. Le soir, par la magie du gaz qui éclaire les rues, la ville lumière est tout aussi attirante et les promeneurs peuvent continuer à badauder dans les rues.
Dans cette ville toute pleine de plaisir, de joie et d'amour, dans cette ville souveraine, je ne ferai qu'un court séjour. J'y resterai 3 mois peut-être, or 3 mois c'est bien peu je crois, surtout quand on veut tout connaître, aussi je veux dans ces 3 mois. Je veux m'en fourrer jusque-là, je veux m'en fourrer jusque-là, porter la lettre à Medella, je veux m'en fourrer jusque-là, je veux m'en fourrer jusque-là, je veux m'en fourrer jusque-là, porter la lettre à Medella, je veux m'en fourrer jusque-là.
Pour les amateurs de musique sous le Second Empire, il y a à Paris moult occasions de soirées en tout genre. Des récitals confidentiels dans de petites salles, au concert populaire de Jules Padeloup au Cirque Napoléon, de la salle plutôt intime de l'Opéra Comique à la grande salle de l'Académie Impériale de Musique. En pleine saison, il y a une moyenne de plus de 3 concerts ou représentations par jour. Une rétrospective publiée dans la Revue et Gazette Musicale en octobre 1871 souligne que la déclaration de guerre ne porta pas un préjudice immédiat, loin de là, aux exploitations lyriques et dramatiques de Paris. Les théâtres, les concerts ne s'en remplirent pas moins chaque soir. Musique et chansons n'en résonnèrent que de plus belle dans la nuée grosse d'orage. Jamais, non, jamais on ne vit un grand peuple s'étourdir, s'oublier aussi consciencieusement sur le bord de l'abîme.
J'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires, leur uniforme coquet, leur moustache et leur plumet. Oh, j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires, leur armature, leur manière, en eux, oui, tout me plaît. Quand je vois là mes soldats prêts à partir pour la guerre, fixez-moi l'œil à 15 pas. Je n'en sais rien, ce que je sais.
rapport à l'armée allemande, l'armée française est moins nombreuse, moins bien préparée, moins bien armée et moins bien vaccinée. En effet, une épidémie de variole sévit depuis plusieurs années, mais les vaccins sont de mauvaise qualité et ne protègent pas suffisamment. Du fait de la conscription, les soldats sont regroupés et se contaminent davantage. Dans les rangs français, il y a entre 125 000 et 200 000 malades, toute une armée, et près de 23 500 morts de la variole, quand il y a moins de 300 morts dans l'armée allemande. Bref, le 2 septembre 1870, l'empereur des Français, Napoléon III, dépose les armes à Sedan. Il se trouve désormais prisonnier des Prussiens. La nouvelle arrive à Paris et dès le lendemain, les boulevards se remplissent de monde. Les Parisiens sont catastrophés. Ils se sentent trahis, d'autant plus que l'armée allemande se rapproche. Le 4 septembre, un dimanche, une révolution sans violence advient. La déchéance de Napoléon et de l'Empire est déclarée, la République proclamée. Juliette Adam, écrivaine et mémorialiste, raconte « Paris est beau le 4 septembre. Les Parisiens sont contents d'eux et fiers de la dignité avec laquelle ils viennent d'accomplir un grand acte. Sur la place de la Révolution, la foule entonne le premier couplet de la Marseillaise. Cet hymne, si longtemps proscrit par l'Empire, remue les âmes, entraîne les courages. Ce chant de guerre, où tous les vers sont héroïques, montre la France blessée, mais fière, indomptable, prête encore à la bataille. Le coq gaulois chante à l'aurore de la République, tandis que l'aigle de l'Empire râle. » Les nouvelles sont mauvaises. Le nouveau gouvernement n'a pas vraiment les moyens d'arrêter l'avancée des troupes allemandes qui se rapprochent de Paris. Le siège est imminent. Cette fois-ci, les théâtres, qui n'étaient pas en vacances pour la clôture annuelle, doivent fermer. On fait des provisions. Une Parisienne raconte « Mes poches, ma robe, mes bras, mes mains sont toujours encombrés quand je rentre. Si je découvre une conserve nouvelle, je rêve à l'étonnement qu'elle causera dans 3 mois aux amis que j'inviterai à la manger. » Verrai-je des héros surgir dans mon entourage ? Au lieu de leur tresser des guirlandes, je leur offrirai une bouteille de jeunes carottes confites, un sac de choux frisés. Il faudra que mon héros ait accompli les plus grands exploits pour que je lui fasse présent d'un fromage de Hollande. Thank you. Le 19 septembre 1870, malgré tous les efforts des troupes françaises, l'encerclement de Paris par les armées allemandes est achevé. La ville a été fortifiée dans les années 1840. Elle est entourée de ce qu'on appelle les fortifs, ou enceintes de tiers, qui doit protéger la ville en cas d'attaque ennemie. Des bastions, des octrois, un mur de 10 mètres de haut et 3,5 mètres de large, des talus, des fossés et des forts en font le tour. Tout cela, malheureusement, peu garni en pièces d'artillerie efficaces.
Le poète en guenille, les rôdeurs et les filles, des chansons d'Aristide Bruand. Les héros populaires, les refrains d'avant-guerre, sont bien loin de nous maintenant. Tout cela disparaît dans la nuit, et l'on se demande aujourd'hui que sont devenues les fortifications et les petits bistrots des barrières. C'était le décor de toutes les chansons, des jolies chansons de naguère. Où sont donc Julot, Nili, Casque d'or et Petit Louis le Costaud, si célèbre alors? Que sont devenus les fortifications et tous les héros des chansons?
Cette fois, avec la défaite de Sedan et l'approche des troupes allemandes, tous les théâtres ont été fermés. Tous les hommes valides sont intégrés à la garde nationale, y compris les artistes, musiciens, chanteurs, acteurs et tous ceux qui font marcher les théâtres, régisseurs, décorateurs et machinistes. Les musiciens rejoignent les musiques militaires dans lesquelles on retrouve les plus grands virtuoses de la capitale, aux côtés des artistes des théâtres d'opérette. Un témoin se rappelle la musique du 32e bataillon, avec le comique Hyacinthe au premier rang, un triangle à la main et frappant son instrument en mesure avec cet air de grotesque sérénité qui faisait naguère la joie des spectateurs. Les témoignages de l'époque, au début du siège de Paris, les musiques militaires jouent aux exercices, aux prises d'armes, aux promenades, et elles font la conduite aux volontaires qui partent pour les avant-postes. Peu à peu, leur fanfare donne naissance non plus à l'allégresse, à la confiance d'autrefois, mais à une émotion concentrée qui se lie sur les visages assombris par les infortunes imméritées de la patrie.
L'air est pur, la route est large, le clairon sonne la charge, les zouaves vont chantant. Et là-haut sur la colline, dans la forêt qui domine, on les guette, on les attend. Le clairon est un vieux brave, et lorsque la lutte est grave, cette rude compagnon. Il a vu maintes batailles et porte plus d'une entraille, depuis les pieds jusqu'au front. À la première décharge, le clairon sonnant la charge tombe frappé sans recours. Mais dans un effort suprême, menant le combat quand même, le clairon sonne toujours. Couché sur l'herbe, dédaignant blessé superbe, tout espoir et tout secours. Et sur la lèvre sanglante, gardant sa trompette ardente, il sonne, sonne toujours.
Les premiers jours du siège de Paris sont passés à organiser la vie de retranchés. Le gouvernement a réquisitionné la plupart des théâtres pour les transformer en ambulances. Même le conservatoire est devenu un hôpital. Les cours n'ont pas repris. Les élèves sont engagés dans la garde nationale. Quant au futur nouvel opéra de Charles Garnier, qui n'est pas fini, pour le moment, il sert de dépôt de provisions. On y a engrangé 17 tonnes de maïs, 600 tonnes de farine et 500 000 litres d'eau de vie. Comme il y a de l'eau dessous, l'architecte a proposé d'en faire un réservoir souterrain, dont on pourrait boire l'eau filtrée ou bien s'en servir pour éteindre les incendies. Malgré tous ces préparatifs, très vite après le début du siège, une certaine lassitude se fait sentir. Les Parisiens, habitués à toute une large gamme de divertissements, commencent à s'ennuyer. Francisque Sarcey, dans Le Gaulois, lance un appel vibrant. Rouvrez les cafés, rouvrez même ceux des théâtres qui voudront baisser leurs prix et courir la chance de n'avoir plus qu'un public restreint. Est-ce que Paris, sans plaisir, sans gaieté, est encore Paris ? Pendant les premières semaines du siège, les spectacles parisiens sont absents ou se limitent à regarder une revendeuse étaler des navets et des poireaux en plein boulevard des Italiens. Les journalistes, qui eux-mêmes manquent de choses à dire, vont vite entamer une discussion sur « doit-on rouvrir les théâtres ?». Les uns protestent que ce serait malséant, alors que plane un deuil universel. Les autres, au contraire, affirment que le Parisien a besoin de spectacles, que la joie lui relève le moral, que la réouverture de quelques théâtres serait une sorte de défi jeté aux Prussiens, et comme une bravade de gaieté, ce qui est tout à fait dans les traditions françaises, qu'il serait facile de choisir des pièces en harmonie avec le sérieux de la situation, qu'on donnerait ainsi du pain à toute une classe de pauvres gens, employés, costumiers, gagistes, qui se trouvent sur le pavé, sans parler des artistes mêmes, dont la position est également cruelle. Les pour l'emportent à la longue. Ce ne fut pas précisément, affirme un mémorialiste, parce que leurs raisons étaient les meilleures. C'est que Paris s'ennuyait. C'est que le blocus, une fois commencé, personne n'en prévoyait la fin et qu'on songeait avec horreur à la quantité de journées vides qu'il faudrait traverser.
Thank you.
Le 22 octobre 1870, le journal officiel annonce que le lendemain, au Cirque National Boulevard des Filles du Calvaire, aura lieu un concert populaire de musique au bénéfice de l'œuvre des Fourneaux. Monsieur l'abbé Duquesnay, curé de Saint-Laurent, prononcera une allocution. L'orchestre, dirigé par Monsieur Padeloup, exécutera les morceaux suivants. Ouverture de la muette, Auber, symphonie en ut mineur, Beethoven, andante et variation, Haydn, ouverture du Freischütz, Weber. Nous voyons ici les deux justifications que se donnent les Parisiens pour reprendre le chemin des concerts. D'une part, il s'agit d'une bonne œuvre. Cette œuvre des Fourneaux réussit à donner à manger aux pauvres gens pour 4 sous par jour. D'autre part, un abbé est là pour donner à la séance toute l'apparence de moralité dont elle pourrait avoir besoin. Si l'on en croit le temps, l'abbé Duquesnay, chargé de désarmer les susceptibilités les plus délicates, a fait une allocution simple, mais interrompue par de fréquents applaudissements, sur les circonstances dans lesquelles avait lieu le concert au bénéfice de l'œuvre des Fourneaux. Pas vraiment un sermon donc, mais de quoi sans doute donner du cœur au public. Le final de la 5e symphonie de Beethoven, orchestre révolutionnaire et romantique dirigé par John Elliott Gardiner. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Vous pouvez aussi aller consulter la page Musicopolis l'intégrale pour retrouver toutes les précédentes émissions. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Catherine Déréthé pour le mixage, Clément Diaz pour les recherches et le site et Philippe Petit pour la réalisation. À réécouter sur francemusique.fr.